Cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, 29 juin 2001 à Saint-Judas.
C'est le dernier cours. Au point de vue jugement de sagesse, nous avions vu hier l'importance de cette sagesse pratique. Progressivement. C'est sûrement un des points qui, dans le monde d'aujourd'hui, est le plus difficile à acquérir. L'intelligence se développe aussi, l'intelligence humaine, c'est le propre de l'intelligence humaine. Entre parenthèses, l'ange n'est pas un artiste. C'est notre supériorité sur l'ange. Dieu a créé le monde physique pour que l'homme achève ce monde physique par l'art. Vous voyez ? Il y a là quelque chose de très important à saisir et à développer. Parce qu'on n'a plus du tout ce sens-là. Alors que c'est quand même très important de saisir que Dieu a voulu créer tout ce monde physique qui est grandiose quand même, hein, pour chacun d'entre nous. Parce que nous jouissons tous des étoiles, du soleil, de la lune. C'est quand même pas mal comme petit jouet. Et comme spectacle. C'est grandiose. Et Dieu nous donne ça. Et le chant des psaumes montre bien cela, hein. Tous ces points de vue qui doivent être notre louange, notre liturgie. La liturgie, c'est un art religieux. Et l'art est d'abord religieux. Et au plan de vue philosophique, je dois pouvoir le saisir comme un art religieux. Remercier Dieu de tout cet univers dans lequel je vis. Et cet univers est en partie immuable pour moi. Je dis bien immuable pour moi. Parce que même s'il est corruptible, pour les anciens, les étoiles n'étaient pas corruptibles. Mais pour les savants, il est corruptible. Mais ça m'avance pas grand-chose, hein, parce que la corruptibilité du soleil, je peux finir mes jours, il n'a pas bougé. Oui, il a bougé un petit peu, il fait plus chaud, il fait moins chaud, oui. Mais il y a une dimension de l'univers incorruptible que les anciens avaient très bien saisi, que les modernes ne saisissent plus parce qu'il est par la science corruptible. Mais il reste incorruptible au point de vue artistique. Vous ne pouvez pas modifier beaucoup le soleil. Vous ne pouvez pas modifier beaucoup la lune. Même depuis qu'on a mis les pieds sur la Lune, ça n'a pas changé beaucoup, parce qu'on a emporté tout un milieu particulier. Vous savez, c'est pas commode de vivre sur la Lune directement comme milieu de vie. C'est pas un milieu de vie, la Lune. On a le droit d'y aller en emportant ses provisions. Alors, l'univers est double. Le sens de l'incorruptible, du nécessaire, et ce qui est à notre portée, la matière. L'univers me donne le sens de la matière. Et par là, je modifie le milieu dans lequel je suis. L'artiste rend le milieu dans lequel il est vivable, agréable et utilisable. Oui. Alors, il faut toujours se rappeler le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée qui était un point de départ pour Marx. Il a fait sa licence là-dessus. Et le mythe de Prométhée qui, pour l'artiste, reste quelque chose, l'artiste, le travailleur, quelque chose de très grand. Parce que on ne doit pas négliger les mythes philosophiquement. C'est une matière maternelle en laquelle on vit. Et la suppression complète des mythes par un point de vue purement artistique est terrible. Parce que ça enlève à l'homme cette espèce de génie d'enfant. Tout génie est un peu enfant. Et on n'ose plus, dans le monde d'aujourd'hui, de garder l'enfance. Il n'y a plus d'enfants. Ça, c'est un signe d'une civilisation qui ne peut plus se rajeunir et qui perd son point de vue de fécondité. Il y a un point de vue extrêmement important que on ne peut pas le développer puisque nous sommes à la fin de l'année, mais qui est au fond très important. Toute la philosophie de l'art est reprise dans un regard de sagesse. Et on voit le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça ? Philosophiquement, hein, pas pour la nature naturelle. Pas du surnaturel, il y a l'incarnation. Dieu s'est servi de la matière pour faire l'incarnation. L'incarnation est une chose tellement invraisemblable. Tous les mythes religieux sont des mythes qui souhaitent l'incarnation, qui désirent l'incarnation. Et l'incarnation est plus grande que tous les mythes religieux. Alors, la liturgie chrétienne se fait à partir du corps du Christ, à partir de l'incarnation et la croix. Mais au point de vue philosophique, l'homme a besoin d'une liturgie. Liturgie religieuse. L'homme est un être religieux. Et le jour où on supprime de l'homme le point de vue religieux, on tue l'homme spirituellement. On tue son âme. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. On assiste au crime, un génocide de l'humanité. Si on était conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour la naissance de l'Europe. Vous voyez, pour la naissance de l'Europe, on vend son âme et on fait un génocide de l'humanité. Parce que si on tue le point de vue religieux de l'homme, on tue son point de vue spirituel. Et si on tue du point de vue spirituel, on tue. Il n'a plus de finalité. Par le fait même, il meurt. Il se replie sur lui-même. Il vivra comme un automatique. Et donc, il perd sa grandeur d'homme. Un génocide spirituel, c'est peut-être cela qui est le plus net signe qu'on aboutit à un terme, philosophiquement parlant. Ça ne peut pas durer. Et l'homme empêche l'homme de durer. Et ça, c'est la philosophie de l'art qui me fait comprendre ça. La philosophie de l'art, l'art est premier au point de vue philosophique. L'art est dernier. Parce que la création des mythes, c'est une liturgie. Et dans la mesure où Logos s'empare de l'art, du mythe, c'est une contemplation. Mais la contemplation se nourrit toujours d'une liturgie. Elle en a besoin. Et l'ermite, qui vit seul dans son coin, se fait à lui-même sa petite liturgie. L'expérience de tous les ermites, et j'en ai vu, j'ai même vu des ermites qu'on enfermait, qui ne sortaient plus. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Mais les ermites qui ne sortent plus, c'est-à-dire qui sont bouclés, et qui vous demandent de boucler. Là, il y a une clé de l'extérieur, ils sont enfermés. Complètement. Eh bien, il se crée une liturgie. L'homme a besoin de ça. Tellement l'art est impliqué dans notre nature. C'est pas toujours appelé les beaux-arts, hein. Justement, pour bien insister sur le point de vue gratuit. Parce que l'art a quelque chose de gratuit. Il est liturgique dans la mesure où il a touché quelque chose de gratuit. S'il n'est plus gratuit, il ne peut plus être liturgique. Parce qu'il n'est plus enveloppé d'amour. Alors il devient systématique. L'art liturgique, c'est très vite laïcisé. On peut, dans l'histoire de l'art, préciser comment l'art s'est laïcisé, a quitté le point de vue religieux. Et en quittant le point de vue religieux, il a voulu devenir indépendant. L'art pour l'art. C'est une bêtise, hein, l'art pour l'art. L'art est pour l'homme. C'est sûr, il n'est pas pour l'art. Et c'est là où on voit la laïcisation. Oui, qui se fait à partir de l'art et qui progressivement prend tout. Alors, on a l'homme pour l'homme dans une laïcisation complète et qui fait qu'il n'a plus de finalité véritable et il reste dans un mythe. La causalité exemplaire peut très facilement être mythique et absorber l'homme. Alors on travaille pour un idéal. Mais travailler pour un idéal, ça ne nourrit pas son homme. Ça le rend sec. Il faut bien comprendre que l'art va vous donner le sens de la matière. la philosophie de la matière commence par la philosophie de l'art. L'artiste a un sens humain de la matière. Et quand il veut retrouver quelque chose de vrai dans son art, quand l'imagination est tournée comme un peu la folie, il revient à l'art artisanal. L'art artisanal, c'est l'art de la matière. C'est quoi ? On a un souci de respecter la matière. On l'aime. Et c'est très significatif, ça. Ça se voit chez l'artisan du bois. Il aime sa matière. Il aime son. Il caresse le bois. Il caresse le marbre. Il caresse la pierre. Il l'aime. Et en l'aimant, il respecte. Et c'est très, très beau de voir ça. Et nous avons tous besoin de cela, d'avoir ce respect de la matière. Vous voyez, quand il n'y a plus de respect de la matière, c'est parce que on a fait la matière. Pas la peine de prendre des exemples, vous en avez tant et plus. On ne sait plus ce que c'est que la matière. On ne sait plus ce que c'est qu'une carrière de pierre. On ne sait plus ce que c'est qu'un champ. La terre bien exposée qui permet telle spécialité de vigne et de vin. Le sens de la matière est donné d'abord par l'art. Alors, vous voyez, c'est très important au point de vue du jugement de sagesse. Dieu a concréé la matière. Il n'a jamais créé la matière toute seule, séparée de la forme. Il a créé des êtres, des réalités. Il y a toujours une détermination. C'est l'homme qui distingue la matière de la forme. C'est une première distinction capitale. Distinguer la matière de la forme. Mais c'est en même temps une distinction très grave si on passe de cette distinction à la séparation. Et on voit la naissance de l'idéalisme, la perte du sens de la matière. Par le fait même, la perte du sens du travail, la perte du sens de l'art. On voudrait un art purement formel. Formalisme qui existe en morale et qui existe dans l'art. On voit très bien, à la place de la distinction qui est nécessaire et qui est belle, la séparation. Et l'homme peut regarder la matière pour la matière. Dieu ne regarde jamais la matière pour la matière. Jamais. Et le philosophe peut le dire que Dieu ne crée pas la matière pour elle-même. C'est l'homme. Il a ce pouvoir de regarder la matière pour la matière et de faire de la matière la finalité. Ce que nous trouvons aujourd'hui dans notre monde, c'est que la finalité est remplacée par le fondement. C'est très curieux, cela. La vraie finalité est remplacée par le fondement. Le fondement, c'est la réalité qui s'impose à nous, parce que sans elle, on ne peut rien faire. Alors, c'est le fondement. Et la recherche du fondement, la recherche du point de départ, de ce qui est radical, sert très souvent de finalité. Alors, à la place d'être une civilisation qui se développe, on a une civilisation qui se replie sur elle-même et qui devient stérile. Il n'y a pas de fécondité. Il y a l'efficacité sans la fécondité. La fécondité implique toujours la finalité. Tandis que l'efficacité peut être une recherche purement stérile. Vous voyez, tout ce qui serait extrêmement important à saisir dans ce regard de sagesse sur la matière. Concrètement, ça devient le regard de sagesse sur le corps. Notre matière, c'est notre corps. C'est par le corps que nous sommes en contact avec la matière du monde. C'est par notre corps que nous pouvons œuvrer. La main. Et on comprend la définition de l'homme, l'intelligence et la main. Le corps vu dans la lumière de la sagesse de Dieu et le fondement, je dis bien le fondement de tout le conditionnement. Mon conditionnement premier, c'est mon corps. Je comprends là pourquoi Platon dit que le corps est le tombeau de l'âme, pierre tombale, le conditionnement. Il peut dire ça parce qu'il sépare matière et forme. Il considère la matière en elle-même. En soi la matière est le tombeau de l'âme, le corps est le tombeau de l'âme. Vous voyez, c'est quelque chose de très important à saisir cela. Parce que comme notre monde est un monde très idéaliste, qui a beaucoup de peine à comprendre le réalisme de l'expérience, de la sensation, de la matière. On pense pouvoir s'en passer et avoir un monde uniquement fait par l'homme. Fabriqué par l'homme. On tend vers ça, de toutes ses forces, avec dans tous les secteurs. On comprend le progrès comme cette séparation de la forme de la matière. Et on a par le fait même une conception de notre corps dans la vision platonicienne. Le de l'âme. Et c'est vrai que le corps peut, dans la mesure où il est malade, être comme le tombeau de l'âme, la pierre tombale. C'est-à-dire limiter. Je dis limiter, et on ne voit plus que la limite. On voit comment le corps est limite de tout. Alors, on a cette attitude de rejeter son corps. On ne veut pas le nourrir, on ne veut pas le soigner, on le rejette. Et on le considère comme il doit être celui qui doit être le plus loin. Alors que, en réalité, le corps est condition de l'âme. Et c'est vrai, il conditionne, il me limite, mais il me demande toujours de dépasser cette limite. Mon corps ne doit pas me déterminer, je serai déterminé par mon conditionnement, et mon conditionnement ne me détermine pas. Si mon conditionnement me détermine, c'est fini de la finalité. Je suis replié sur moi. Et j'ai comme le milieu dans lequel je vis me détermine. Et ça arrive très souvent, ça, au plan politique. C'est ce qui se passe. On est limité par ce conditionnement et on est déterminé par ce conditionnement. Alors qu'on devrait le considérer comme une limite qu'on doit dépasser pour maintenir la finalité qui est au-delà de ce conditionnement. Ma finalité ne vient pas de mon corps, ne vient pas de ma matière, elle vient de mon âme spirituelle. Et mon âme spirituelle est liée substantiellement à mon corps. Est liée substantiellement. De sorte que je ne peux pas le quitter. Et ce n'est pas moi qui ai lié mon âme à mon corps. Et c'est ça qui peut très bien faire que je sois en opposition et en révolte, que mon âme soit liée à mon corps. Je le constate, je le reconnais. Et si je le regarde par rapport à Dieu, je sais qu'en dernier lieu, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Pas directement, parce que Dieu est cause de l'âme, mais l'âme unie au corps se fait par les causalités secondes. Et on voit très bien, par les causalités secondes, on agit sur le corps. On peut donner une importance beaucoup trop grande au corps, on peut donner une importance pas assez grande au corps. Donc on peut détraquer l'alliance du corps et de l'âme. Et on peut la détraquer de telle manière qu'elle devient absurde. Et parce qu'elle devient absurde, on rejette son corps. Il y a une logique démoniaque qui est très nette. C'est difficile d'accepter dans un regard de sagesse, d'accepter le corps que nous avons. Le corps que nous avons est le lieu du devenir. Plus j'ai le sens de l'être, plus j'ai le sens du devenir. Et je vois que ce devenir cohabite en moi, que ce devenir est extrêmement puissant sur moi, mais qu'il ne me détermine pas, il ne me finalise pas, il doit être porté et dépassé. Et il y a une lutte interne du corps et de l'âme qui peut être très violente, surtout quand elle est occasionnée par le milieu dans lequel je vis. Elle peut être très violente, cette lutte. Et à certains moments, l'âme succombe. Je n'ai plus assez de force morale pour le dépasser. Et mon conditionnement me détermine. Je ne suis plus humain, je deviens bestial, c'est la bête et c'est la violence. Il n'y a plus la finalité. La force qui était faite pour que mon corps soit dépassé par mon âme, cette force se retourne contre moi pour augmenter ce duel, cette dualité âme-corps. Et beaucoup de drames, on pourrait dire que tous les drames commencent par cela. Tous les drames commencent par cela. Et sont exploités par l'imaginaire. Mais ils ont presque toujours un fondement physique. Cette alliance entre l'âme et le corps. Que Dieu a voulu. Dieu a voulu cette alliance de l'âme et du corps. Et il a voulu cela pour que la victoire de l'amour puisse être plus manifeste. Il y a là un problème qui est très important de comprendre que mon corps unit substantiellement à mon âme ne peut pas quitter mon âme. Mon âme ne peut pas quitter mon corps. Cette union substantielle est une union radicale qui fait que mon corps est vraiment ce qui est radicalement le conditionnement de toute ma vie. Et c'est en ce sens-là que je dois avoir vis-à-vis de mon corps une attitude intelligente. Je dois le respecter, l'aimer, puisqu'il est un compagnon substantiel, il vaut mieux l'aimer, être en bon rapport avec lui, que de créer une lutte. Une lutte qui serait dramatique. Et tous ceux qui sont autour de moi en pâtiraient. Il faut l'aimer et le respecter, c'est-à-dire ne pas le brimer, ne pas l'ignorer et prendre toujours le contre-pied de mon corps. Non, il faut le dépasser. et le dépasser en le respectant. Parce qu'il est voulu par Dieu. Il est voulu par la sagesse de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a voulu que ce soit comme ça. Il aurait pu faire autrement, c'est sûr. Il n'était pas... Il l'a fait comme ça. S'il l'a fait comme ça, il y a un ordre de sagesse que je dois comprendre. Pourquoi mon âme est unie à mon corps? Mon âme est unie à mon corps pour que Dieu puisse communiquer à mon âme certaines qualités qu'il n'aurait pas pu communiquer si mon âme avait été séparée du corps. Et je dois découvrir, au point de vue philosophique, purement philosophique, le pourquoi de la sagesse de Dieu qui a créé mon âme dans mon corps. Oui. Et le comprendre au plan philosophique, pas uniquement au plan du chrétien, mais le comprendre au point de vue philosophique. Au point de vue chrétien, je l'accepte comme ça. Et je ne comprends pas très bien. Je regarde Jésus, c'est Jésus seul qui m'en donne l'intelligence. Une intelligence éminente d'amour, mais qui peut être vécue avec une plus grande profondeur si, au point de vue philosophique, je vois que Dieu a voulu cette union de l'âme et du corps. Cette union substantielle de l'âme et du corps qui s'impose à moi, qui est un donné que je dois admettre et essayer de le comprendre. Et je vois que si Dieu a permis ça, c'est pour que Dieu puisse communiquer à sa créature la possibilité de la fécondité. C'est, je crois, la première raison. Une créature purement spirituelle ne pourrait pas et ne peut pas être père d'une autre créature. Là, vous voyez que puisque Dieu est Trinité, ça c'est théologique, puisque Dieu est Trinité, je vois une nouvelle raison à cette fécondité. C'est pour que je puisse avoir cette similitude, cette analogie de similitude entre la paternité humaine et la paternité divine. Ça, c'est en théologie. Au point de vue humain, la fécondité communiquée à la créature, la possibilité pour la créature d'être source de vie, d'engendrer père et mère. Et Dieu a voulu qu'il ait le concours des deux. Et l'homme voudrait qu'il n'y ait plus le concours des deux. La fécondité est dualité dans l'unité. fécondité est quelque chose de tellement grand qu'elle implique cette dualité dans l'unité. Donc, elle est analogique, la fécondité. Elle n'est pas univoque. C'est même l'analogie première. Et Dieu a voulu ça dans sa sagesse pour que l'homme soit plus semblable au Créateur et qu'il voit la différence entre la génération et la création. Et qu'il comprend que la création ex nihilo, la génération à deux, et pour que cette génération soit plus parfaite, cette fécondité soit plus parfaite, il permet et il veut qu'entre l'homme et la femme il puisse y avoir amitié. La génération humaine réclame l'amour d'amitié entre l'époux et l'épouse. Et ceci pour que, au-delà de la dualité, il y ait l'unité dans l'amour. Cela me fait comprendre pourquoi Dieu a voulu aller jusque-là dans l'ordre de la création. Donc, pour la fécondité et pour l'amitié. Et l'amitié de l'époux et de l'épouse a pu s'étendre entre les diverses personnes humaines, hommes et femmes, hommes et hommes, femmes et femmes, l'amitié. Et l'homme n'a pas gardé ce privilège, ce secret, qui est quelque chose de très extraordinaire et de très grand, puisque ça nous fait mieux saisir pourquoi Dieu crée. Et c'est proprement ce point de vue-là que la fécondité de l'homme et de la femme, leur amitié, nous dévoile le point de vue de la création. C'est-à-dire le point de vue de cette première fécondité. Le passage de Dieu à la créature. Et l'homme a dégradé cela en ne cherchant que la jouissance. Et la dégradation de cet amour d'amitié voulu par Dieu pour la fécondité, l'homme ne cherchera dans l'amitié que la jouissance. Alors à ce moment-là, il essaiera de découvrir une jouissance coupée de la fécondité pour qu'il n'y ait plus que la jouissance. C'est une dégradation que l'homme fait de la véritable amitié. Et troisièmement, Dieu a voulu ce lien de l'âme et du corps substantiel pour que l'homme puisse coopérer par l'art, par le travail, à l'œuvre créée par Dieu. Dieu a voulu créer un univers imparfait, ayant une certaine perfection, mais imparfait, pour que l'homme puisse l'achever. Et ceci, tant au point de vue moral qu'au point de vue physique. Au point de vue moral, en voulant l'amitié, il a donné une loi. Et l'amitié est au-delà de la loi. Il a permis de cette manière que l'homme puisse, dans une certaine mesure, coopérer avec le Créateur. Il ne coopère pas directement, parce que la création se fait à partir de rien, mais il coopère à partir de l'œuvre. Pour faire que cette œuvre soit achevée, complétée. Mais, du fait qu'il y a une union substantielle entre le corps et l'âme, Dieu avait voulu que cette amitié entre les époux soit au-delà de la mort. La corruptibilité du corps est d'abord vaincue, dépassée par l'amitié spirituelle. La mort humaine ne peut être dépassée, donc combattue, que par l'amitié. Au point de vue chrétien, elle sera dépassée, la mort sera dépassée par l'alliance avec Jésus. Mais au point de vue philosophique, seule l'amitié permet d'être victorieuse de la mort. Il faut bien voir cet amour de Dieu d'unir l'âme au corps, et cette union substantielle voulue par Dieu. Vous voyez, par là, nous comprenons mieux ces différents éléments nécessaires à la personne humaine. Et on comprend comment la personne humaine assume l'individu. L'individu, c'est le point de vue singulier de la matière qui triomphe et qui fait un individu. L'individu peut très bien être cause de jalousie quand il est mal compris, quand il est exalté comme individu. l'individu peut être assumé par la personne et alors être dépassé par un amour d'amitié. Et honorer cette victoire de l'unité par rapport à l'individu. La personne est victorieuse de l'individu. Elle l'assume. Il n'y a pas d'opposition individu et personne, non. L'individu provient de la quantité, provient de la forme dans la quantité, qui fait que chaque individu est unique. Et chaque individu peut être dépassé par la personne. Elle doit être dépassée par la personne. Et permet de comprendre mieux ce que le corps apporte à l'âme.